Le mental, c'est ce qui fait un petit peu ma force parce que moi, c'est vraiment en 2023 que j'ai commencé à m'entraîner vraiment à courir. On peut dire que les autres années, je faisais peut-être 300 à 500 km de course dans l'année. 2023, j'ai fait 1 600 km de course dans l'année, je pense. Fait que ça fait quand même 9 ans que je développe mon mental.
Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leur futur projet sportif, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à deux reprises. Mais pourquoi deux interventions sur un même sujet? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces deux épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Bonjour, aujourd'hui je reçois Anthony Bosredon, un trailer qui a passé les étapes jusqu'à s'inscrire à son premier 100 miles. Mais ne perdons pas trop de temps et allons directement à sa rencontre. Salut Anthony, comment tu vas?
Salut Alexandre, ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui on est là pour discuter tous les deux et ça me fait très plaisir d'être là.
Eh bien écoute, plaisir partagé. On va commencer avec la première question du podcast qui est récurrente, c'est quel a été le premier sport qui t'a passionné?
Le premier sport qui m'a passionné, ça a été la boxe française. Il faut savoir qu'à la base, je suis un enfant qui n'est pas du tout sportif. J'ai commencé le sport réellement à 18 ans. C'est un ami qui m'a amené dans une salle de boxe parce qu'on voulait faire une activité ensemble. Lui, il en faisait déjà depuis un an ou deux. Et j'ai tout de suite accroché. Ça a été le coup de cœur pour ce sport. Après ça, j'ai continué pendant 10 ans. La boxe et les sports de combat. Donc, tous les ans ou tous les 2 ans, je changeais de sport de combat pour devenir de plus en plus complet. Puis, même encore maintenant, on le voit dans la façon dont je me tiens et tout ça, les restes un petit peu de ces 10 ans de sport de combat, j'ai gardé des automatismes.
Et t'es passé par quelle discipline en sport de combat?
J'ai fait donc boxe française au début, ensuite boxe anglaise, karaté contact, jiu-jitsu brésilien, arts martiaux mixtes et boxe thaïlandaise.
Ok, ouais, donc vraiment complète affaire.
Parce que je cherchais ce qui se retrouve un petit peu dans ma pratique aussi des ultras et tout ça, c'est de devenir le plus complet possible, pas seulement être dans une discipline, mais aller regarder toutes les autres disciplines pour trouver mon style à moi.
Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que parce que bon, aujourd'hui, on voit un petit peu avec l'évolution du MMA en France, en tout cas, que maintenant il y a des salles où on va seulement pratiquer le MMA, qui est un ensemble en fait de toutes les disciplines dont la plupart t'as parlé juste avant. Mais toi, c'est vrai que toi, t'as vraiment allé dans chaque discipline indépendante pour aller chercher on va dire, le meilleur ou.
Oui, c'était ça en fait. Pour développer mon style à moi, parce que on va t'apprendre des choses dans un club. Puis déjà, quand tu vas changer de club, tu vas apprendre des choses différentes parce que les profs aiment des choses différentes, etc. Et en changeant de sport, tu vas découvrir des nouveaux mouvements, des nouvelles façons de te positionner. Tu vas travailler aussi d'autres façons de rentrer dans le mental de ton adversaire. Donc, tout ça. Moi, c'est ce qui m'a permis de me dire, j'ai envie de me compléter, j'ai envie de voir d'autres choses plutôt que de passer 10 ans dans le même sport de combat ou dans le même art martial. C'est ça. Puis les arts martiaux mixtes, c'était pas encore hyper développé. Mais dès que ça a commencé, que j'ai commencé à regarder l'UFC avec les amis à la télé et tout ça, ça a été là aussi un coup de cœur.
Donc là, on va parler donc de trail, mais qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied? Parce que tout ce qui est boxe, sport de combat en général, ça arrive de courir un petit peu pour l'entretien, mais on est quand même loin d'aller courir un ultra.
Ah, c'est arrivé vers mes 26-27 ans. Je commençais à avoir des petites blessures récurrentes avec les sports de combat. Donc, tu sais, on va dire, tu reviens de l'entraînement quand tu es jeune, quand tu as entre 20 et 25 ans, tu as des œufs sur le tibia, tu as des choses comme ça, mais le corps se répare quand même très vite. Mais là, ça commençait à prendre un peu plus de temps à chaque fois à se réparer. Puis je me suis dit, je vais pas pouvoir continuer ça, et je commençais à avoir une petite envie de défi. Par exemple, on s'était lancé le défi avec ma blonde de faire le GR20, puis 3 mois plus tard, on est allé faire le GR20, donc la traversée de la Corse, en randonnée, en mode randonnée. Puis juste en descendant du GR20, je pense qu'on était le lendemain après avoir fini le GR20, je me dis, hey, j'aimerais ça faire une Spartan Race, mais une 5 km. Parce que après tout, moi, j'étais pas un coureur, puis je me sentais pas coureur dans l'âme, donc seulement un 5 km. Fait qu'en arrivant au Québec, 2 mois plus tard, j'ai rencontré un ami, un Français aussi, qui habitait Chamonix, puis qui venait d'arriver, et on a tout de suite sympathisé, on a très bien accroché, puis lui, il avait fait un petit peu de course en trail. Et donc, lui aussi, ça le motivait de faire la Spartan Race l'année d'après, donc s'entraîner tout l'hiver pour ça. Puis ça a été un petit peu le coup de cœur pour la course à pied et les courses à obstacles.
D'accord. Et donc là, après cette course de 5 km, ça a enchaîné, tu as enchaîné sur quoi?
Bah, à la base, ça devait être la seule course que j'allais faire, hein. Moi, je l'ai dit à mon ami, je lui ai répété comme ce que j'avais dit à ma blonde. Moi, je suis pas un coureur, donc je dépasserai jamais les 5 km. Mais je me nourris au défi. Et donc, bah, forcément, tu fais la Spartan Sprint. Bah, tout à coup, on te dit, oui, mais ce serait intéressant de faire les 3 courses dans l'année. Donc, la Sprint, la Super et la Beast. Parce qu'il y a une super médaille très jolie à la fin de l'année. Bon, bah oui, ok, bon, bah allons-y. Tant qu'à faire la Beast, on va prendre la plus difficile d'Amérique du Nord, hein, celle de Killington, parce que sinon, c'est pas marrant. Et donc, j'ai surfé de défi en défi, mais toujours dans les courses à obstacles pour les premières années. J'ai eu une année triathlon aussi, où j'ai voulu essayer pour le fun, voir ce que ça donnait. Et puis, en 2019, j'ai fait une Spartan Ultra, donc une 50 km. Juste après ça, j'ai enchaîné avec le marathon d'Ottawa parce que c'était l'occasion, là, même si je m'étais pas du tout entraîné en course à pied sur route, c'était l'occasion de le faire. Et de là, j'ai eu quand même cette petite accroche pour les trails. Puis pour la course à pied, puisque avant je voulais rien entendre parler de la course à pied. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les courses à obstacles. Fait que c'était le fun des obstacles. Puis pas de chance, faut courir entre les obstacles. Fait qu'allons-y. Mais là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis 2020 est arrivé, tout a fermé. Puis au Québec, on a vraiment quasi eu aucun événement là. C'était quand même assez strict les règles sanitaires ici. Puis donc, on en a profité. On a de l'espace, on a des montagnes. Donc, je suis parti m'entraîner en trail. Et c'est cette année-là que j'ai fait mon premier 50 km en solo, cette fois-ci, dans les montagnes du Québec.
D'accord, donc là tu étais vraiment, on est hors compétition, vraiment sur un projet off. Tu t'es dit, je vais partir pour un défi de 50 km.
Oui, bah, je m'étais inscrit pour c'était 55 km. Je m'étais inscrit pour un 55 km. C'était en septembre-octobre, et malheureusement l'événement a été annulé à cause des conditions sanitaires. Fait que je me suis dit, bah, c'est pas vrai que j'ai prévu ce truc-là, puis que je me suis un petit peu entraîné, un petit peu plus que d'habitude, on va dire, et que je vais pas le faire. Donc j'ai pris ma montagne préférée, j'ai demandé à mon ami justement que je connaissais depuis 9 ans de m'accompagner au moins pour les 40 premiers kilomètres, et puis c'était parti.
Ok, cool. Et ça, du coup, ça l'a fait sur ce défi-là?
Des super sensations, ça l'a fait vraiment bien. On a eu des petits moments cocasses où moi j'avais prévu des boucles pour revenir à la voiture, histoire de pouvoir boire et puis me ravitailler en nourriture, un petit peu comme des ravitaux qu'on trouve sur les ultras. Et à un moment avec mon ami, on se dit, bah tiens, on va aller prendre un autre chemin. Puis on se dit, ah, on va juste faire une petite boucle. Pas besoin des bâtons, on n'a pas besoin de prendre trop de ravitaillement, puis on revient rapidement. C'est l'histoire d'un petit 10 km. Puis finalement, ce petit tour, on l'a poussé un petit peu parce qu'on trouvait ça marrant. Puis il a fini par faire 25 km. Donc, mais sinon, ça a super bien été. Je suis rentré dans les barrières horaires qu'aurait donné la compétition. Donc c'était. Non, puis à partir de là, je veux dire, j'étais accro, quoi. C'était obligé.
Là, la passion était partie, c'était lancé.
Absolument.
Quelles ont été un petit peu les courses auxquelles tu as participé une fois qu'il n'y a plus ces restrictions sanitaires?
Alors, donc 2021, j'ai participé au Québec Méga Trail 50 km, qui a très bien été, mais j'étais avec mon ami qui était moins entraîné parce que là, j'étais encore. J'aime les défis, mais j'avais encore envie d'avoir du fun. Et puis mon ami, il était un petit peu moins entraîné que moi, mais il arrivait quand même à suivre. Donc, on se lançait là-dedans. Et après cette course-là, 3 mois plus tard, on a fait notre 55 km, donc celui que j'aurais dû faire en 2020. Et ça a été de super expériences là aussi.
Ok, et après, qu'est-ce qui t'a poussé à allonger les distances?
C'est le défi. En fait, je suis pas quelqu'un qui va chercher, par exemple, à améliorer un chrono sur un 10 km, sur un marathon, ou alors à refaire une course une deuxième fois pour avoir un meilleur chrono. Moi, ce que je cherche, c'est à me pousser plus loin, puis à chercher où sont mes barrières, puis à essayer de les dépasser. Et que ce soit en physique ou en mental.
Et là, du coup, les barrières, pour le moment, elles sont... Bon, tu les as trouvées ou pas pour le moment?
J'en ai trouvé par moment. Par exemple, en 2022, j'ai fait donc un ultra de 80 km en septembre. Et ça s'était tellement bien passé que je trouvais ça dommage. Ce qui fait que 28 jours plus tard, j'ai fait un deuxième ultra de 80 km où je me suis dit, bah, pousse-toi le plus que tu peux et trouve une barrière mentale ou physique. J'ai pas trouvé de barrière mentale, mais au 60e kilomètre, j'ai trouvé une barrière physique. J'ai commencé à avoir des petits picotements partout sur le visage, à devenir pâle, à avoir une baisse d'énergie. Et le truc assez incroyable, c'est que j'étais heureux. J'ai même un message qui est enregistré que j'envoie à ma blonde et que j'envoie à mes amis, où je leur dis que je suis content parce que j'ai enfin trouvé une barrière physique et puis que je vais être obligé de la gérer pour réussir à finir ma course.
Cette course-là, t'as réussi à la finir?
J'ai réussi à la finir, ça s'est très bien passé. Puis c'est là où je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Je me sentais pas de me lancer sur un 100 miles, donc sur un 160 km, parce que quand même, c'est un gros step. Et puis on va dire que les trails au Québec sont très techniques. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit à un entre-deux au 125 km.
C'était le sur quelle course que tu as fait ce 125 km?
L'Ultra Trail Aricana, c'est en septembre dans la région de Charlevoix au Québec. C'est un trail qui est magnifique. Je conseille à tous ceux qui, soit ceux du Québec qui écoutent le podcast, ou ceux qui comptent aller en vacances au Québec ou s'expatrier, je leur conseille vraiment de faire cette course. T'es perdu dans la forêt de Charlevoix pendant 125 km. Il y a quasi aucun réseau téléphonique. Non, c'est génial.
Ok. Et ça, donc j'imagine que ça t'a plu, parce que si tu cherches à t'inscrire du coup, enfin à participer à un 100 miles maintenant, c'est que cette épreuve, elle s'est bien passée pour toi?
Ça s'est, on va dire, à 75% très bien passé. Ça veut dire que jusqu'au 30e kilomètre, ça allait vraiment très bien. Mais il faisait quand même très chaud avec beaucoup d'humidité cette journée-là. Et du 30e au 50e, j'ai fait une surchauffe. Ce qui fait que j'ai quasi rien mangé. du 30e au 50e et j'avançais vraiment au ralenti et je pouvais boire une gorgée d'eau par heure à peu près. Là. Donc ça a été vraiment très difficile. Heureusement, j'avais mon ami qui était là avec moi, qui était un pacer. Là. Je sais que ça se fait un peu plus en Amérique, un peu moins en Europe. Donc lui, il me suivait du 30e au 60e. Puis j'ai réussi à bien réagir, à trouver des solutions pour réussir à faire passer cette surchauffe. Sachant qu'au ravito du 60e, c'est là où la majorité des gens abandonnent, en général, cette course, parce que tu arrives, il est minuit, 2h du matin. Et que si t'as eu mal pour la chaleur à cause du terrain technique, etc., c'est dur sur le mental. Tandis que moi, je suis arrivé au 60e kilomètre et c'est comme si je recommençais la course. J'étais au top du top et à partir de là, ça a été super bien jusqu'au 125e kilomètre.
Ok. On va parler du coup du sujet du jour qui est la Canyon Endurance Run. Avant d'intégrer cette course en lisant un petit texte dessus, est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire sur cette course-là ?
Alors, la première des choses, c'est que je cherchais un défi. Je savais que je voulais faire un 100 miles, mais je cherchais un 100 miles qui soit le plus tôt possible dans la saison. Parce que faire une course au mois de septembre ou octobre, c'est bien parce que tu as le temps de te préparer, mais c'est pas bien parce que tu passes tout ton printemps et ton été à te préparer, à repasser en boucle dans ta tête la course pour te dire comment je vais la gérer, comment ça va se passer, etc. C'est très lourd. Je vais dire, c'est une sorte de surcharge mentale, de charge mentale quand même qui te suit un petit peu tout ton été. Et l'autre chose, c'est que si tu rates ta course, si ça se passe mal, parce que là, on parle d'ultra sur lesquels t'as 50% des gens qui abandonnent. Si tu rates ta course, t'as aucun moyen de te reprendre parce que, désolé, mois d'octobre, la neige commence à tomber après au Québec. Donc, début de saison, je voulais quelque chose en début de saison. Et comme je vise faire l'UTMB dans les prochaines années, il me fallait une course qui rapporte les fameuses Running Stones. Et donc, Canyon Endurance, c'était la course qui cochait ces deux cases-là. Et en plus, tu cours sur une partie des trails de la Western State, qui est quand même la course mythique des ultras. Donc, c'était la course parfaite pour moi, là, pour cette année.
Écoute, je vais commencer par lire le texte, un texte que j'ai trouvé sur le site de inspirationtrail.fr, qui explique un petit peu, dans les grandes lignes, ce que représente la course, parce que pour rien te cacher, j'ai voulu aller sur le site officiel de la course, mais vu que c'est tout en anglais et au niveau de la traduction c'était pas si évident que ça, et c'était assez la description de la course est assez précise parce qu'il t'explique que tu prends à droite sur telle rue, à gauche sur telle rue.
Effectivement, ouais.
Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller le lire. Il y a Google Translate pour ceux qui sont pas très forts en anglais, un peu comme moi, mais je trouvais ça un peu trop précis pour finalement intégrer cette course dans le podcast. Alors, je me lance. Le Canyon Endurance Run part du centre-ville de Auburn, ville historique des chercheurs d'or, à l'orée de la Sierra Nevada. La ville d'Auburn est également le lieu de la naissance de l'ultra-endurance aux États-Unis, puisque c'est le lieu d'arrivée de l'itinéraire mythique de la Western State. Au milieu du XXe siècle, quelques Américains ont voulu montrer qu'il était possible de réaliser 100 miles à cheval, en moins de 24 heures entre Taos et Auburn. Quelques années plus tard, des courageux ont tenté le même défi à pied pour finalement aboutir à la création de la Western State 100. Le Canyon Endurance Run reprend certaines parties du très beau tracé de la Western State 100, mais en sens inverse. Donc voilà, pour reprendre ce que tu disais, effectivement, ça reprend des parties de la Western State, qui est une course quand même mythique. En tout cas outre-Atlantique, mais même en Europe, c'est une course qui est connue et réputée. Il y a pas mal d'Européens qui partent pour aller la faire et si possible la gagner.
Et oui, on se souvient on va dire Européens, mais un petit peu Québécois d'adoption. On se souvient de Mathieu Blanchard qui avait ça comme objectif l'année dernière.
C'est juste. Malheureusement, ça n'a pas fait pour cette année, mais il paraît qu'il y a quand même souvent une année pour l'appréhender. Et il faut revenir quand même une deuxième fois Ça, c'est un coup de marketing, ça encore, c'est pas possible.
Là, je vais parler de la Western. La Western, c'est une course très difficile parce qu'elle est roulante. Donc, tu peux quand même aller assez vite. Il y a plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif. Donc, tu peux vraiment lâcher les chevaux. Le seul problème, c'est que tu commences sur la trail où tu as de la neige et tu finis au fond du canyon où il fait 40 degrés.
Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le parti assez complexe de cette course. C'est vraiment l'aspect météo-climatique qui est quand même difficile à gérer. C'est qu'ils partent, on va pas refaire la course, mais c'est qu'ils partent sur une montée où ils montent assez haut en altitude, où ils vont trouver la neige. Et comme tu dis, c'est vrai qu'ils finissent dans une zone où les températures sont presque dignes d'un désert.
C'est ça, puis c'est très difficile. Et puis surtout, aux vitesses auxquelles vont les élites, tout peut arriver. Et même sur Canyon Endurance, comme on est en début de saison, on n'a aucune idée de à quoi ça ressemblera. Tu sais, la Western, tu sais qu'il va faire chaud, ça c'est sûr. Canyon Endurance, on n'a aucune idée parce que l'année dernière, ils avaient 30 degrés pendant la course. Trois jours plus tard, je crois, il neigeait. Okay, ouais. Et en 2022, ils ont eu une tempête de neige quelques jours avant la course qui a tout changé.
D'accord, donc c'est quand même une grosse part d'aléatoire sur cette course-là, en tout cas.
Oui, et c'est ce que je trouve super intéressant là aussi. Ça rajoute un petit peu de piment à tout ça.
Écoute, alors, en tout cas, on va parler de ta préparation pour cette course. On va commencer par l'aspect physique. J'ai une question pour toi. Donc, quelle est ton approche générale en termes d'entraînement pour te préparer à cette course ? Sachant que, comme tu l'as dit, en début de saison, toi, tu es au Canada. Donc, d'après tes vidéos, on n'a pas l'impression de voir trop la terre. Tu cours plutôt sur neige que sur terre en ce moment. Comment tu te prépares pour cette course ?
Donc, faut savoir déjà que moi, j'ai pas de programme, puis j'ai pas de coach non plus. Je fais mon entraînement par moi-même selon ce que j'ai envie de faire cette semaine-là et selon ce que je sens que j'ai à travailler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'alterne des semaines avec du dénivelé, avec beaucoup de dénivelé, des semaines avec plus du kilométrage, avec moins de dénivelé, pour essayer de travailler un petit peu tous les aspects de la course. Aussi, en fin 2023, j'étais en France, donc j'en ai profité pour travailler la course sur route un peu plus aussi. Là. Je veux dire, j'ai fait un 37 km dans Paris en me levant un matin, puis 4 jours plus tard, je faisais un 26 km avec mon beau-frère sur route là aussi. Puis effectivement, on s'entraîne sur la neige, donc les conditions, c'est assez difficile quand même. L'avantage de la neige, c'est que c'est beaucoup moins technique. Les sentiers sont beaucoup moins techniques, ce qui va ressembler un petit peu à Canyon. Par contre, effectivement, le ressenti n'est pas le même. Donc, j'ai inclus quand même de la route dans ma préparation. Ensuite de ça, je travaille le physique aussi parce que j'aime ça, travailler le physique. Donc, tout ce qui est renforcement des jambes, mais aussi, et trop souvent les gens l'oublient, renforcement du haut du corps, des abdos, des épaules, des bras, parce que quand tu es en trail et encore plus en ultra, tu portes ton sac à dos tout le temps. Imaginons que sur la canyon, il demande le kit chaleur. Ça veut dire que tu dois en permanence avoir 2 litres d'eau sur toi, donc tu cours avec 2 litres d'eau, plus ta veste imperméable, plus ta nourriture, plus tes bâtons que tu te sers avec tes bras. Donc je pense que c'est vraiment important de travailler le haut du corps aussi.
Ce que je vois, il y a pas mal de vidéos de toi où tu t'entraînes dans un garage, une salle. Ça s'appelle comment cette discipline ou enfin ce type d'entraînement ?
C'est un entraînement hérité des courses à obstacles. En fait, mon ami Eric, il a un garage où il a décidé d'avoir un super kit pour se suspendre, donc accroché à ça, donc ce qui fait travailler énormément les abdos, les bras, le dos, la concentration, parce que c'est pas seulement des monkey bars classiques, on a toutes sortes de prises qu'on peut voir sur les vidéos. Puis ça, faut que tu aies le coup d'œil. Et de temps en temps, on travaille en rapidité justement pour travailler le temps de réaction. Parce que ta main, tu dois la poser au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon. Et en plus, je veux dire, j'ai fait des courses à obstacles pendant 9 ans, donc j'adore ça, ce genre d'entraînement.
Et ça, tu sens que le fait de s'entraîner à ça, ça te permet de tonifier en tout cas le haut du corps et ça te sert dans ta pratique du trail sur un ultra trail?
Absolument, parce que je veux dire, tu quand tu as des descentes un petit peu fortes ou quand tu commences à être fatigué ou quoi. C'est ton corps au complet qui travaille sur un ultra. On peut pas se passer de ça. Par exemple, si quand tu utilises les bâtons, si t'as des grosses montées ou quoi, tu peux finir par avoir des crampes au bras tellement tu pousses sur tes bâtons pour monter. Si jamais ton corps est pas adapté à ça, ça marche pas. On l'a vu aussi, on voit des vidéos des gens, par exemple, sur la Diagonale des Fous ou même sur l'UTMB qui finissent avec complètement tordus. Parce que sûrement qu'ils sont pas suffisamment développés ou musclés du dos, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le dos, il en peut plus. Puis c'est comme ça que les gens finissent bloqués et puis qu'ils finissent le parcours dans la douleur.
Un autre point du coup important sur l'ultra-distance, c'est la nutrition. Comment toi, est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as une stratégie nutritionnelle pour la course?
Alors, j'ai une petite stratégie nutritionnelle. Bon, déjà, le principe de la nutrition, c'est d'utiliser ce que tu connais, de manger ce que tu connais, et encore plus pour moi, parce que j'ai un dysfonctionnement au niveau de l'estomac et des intestins, qui fait que certains aliments auxquels je suis pas habitué peuvent très rapidement me poser problème, des douleurs d'estomac, ça peut faire office de laxatif, etc. Donc, il faut vraiment que ce soit une nutrition qui soit calée. Par contre, donc, par exemple, j'ai des Barcliffe sur moi, que je sais que c'est quelque chose que je digère très bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est les pommes de terre avec du sel dessus, qui est un apport nutritionnel vraiment très intéressant. Les chips salés aussi, comme des Pringles ou des choses comme ça, ça peut être très bon. Bien sûr, il y a les gels, les compotes, les purées. Il faut faire très attention à pas se faire des pics de sucre, parce que le corps réagit à un pic de sucre en augmentant l'insuline, et donc tu te retrouves avec un down d'énergie, donc une grosse baisse d'énergie juste après. Donc il faut vraiment faire attention à prendre juste ce qu'il faut. Et comme ça s'est passé un petit peu sur mon 125 km, des fois, quand ça marche pas, bah faut pas avoir peur de changer de plan. Là où j'ai pas pu manger du 30e au 60e km, bah du 60e au 125e km, je me suis nourri de coca, de grilled cheese et de bonbons.
C'est quoi du grilled cheese ?
Ouais, grilled cheese, c'est deux tranches de pain de mie avec du fromage cheddar au milieu, puis tu fais griller un petit peu ça.
Ok.
Et donc, c'est des aliments simples quand même, bonbons, coca et grilled cheese. Et je sais que je le digérais bien. Par contre, j'ai été surpris de tenir 60 km avec ça.
Après, c'est vrai que, comme tu dis, c'est que dans un moment où tu peux pas t'alimenter, tout ce qui passe... Il faut pouvoir le prendre parce que sinon ça va être très très compliqué. Donc finalement, c'est vrai que c'est surprenant que ça puisse tenir autant de kilomètres. Par contre, c'est vrai que si tu n'avais pas pu manger ça, là c'est vrai que ça aurait été très très compliqué, j'imagine.
Ah, c'est sûr, parce que les gels ne passaient plus. Mon corps, il voulait plus avoir à digérer ça. Les Barcliffe, c'était trop riche. Fait que là encore, ça passait pas. Ce qu'il fallait, c'était quelque chose quand même de rapide. Et puis sur les ravitaux, il y a ça, bonbon, grilled cheese, coca. Donc, j'ai testé sur le premier ravito, je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Deuxième ravito aussi. Bon, on va finir avec ça, puisque ça marche, c'est parti.
Et est-ce que tu as une routine alimentaire d'avant-course, des aliments que tu aimes bien prendre avant, ou alors, en tout cas, quelque chose que tu fais dans la semaine d'avant-course?
La semaine d'avant-course, je baisse le nombre, la quantité de légumes que je mange. je vais plus faire d'à côté comme manger du Nutella ou des choses comme ça, et je vais y aller aux trucs les plus simples. Faut savoir que moi, je suis d'une famille où à moitié d'origine italienne. Donc, je pourrais me nourrir de pâtes toute la semaine, que ça m'irait très très bien. Je pense que mon ADN est fait pour ça.
Pourquoi moins de légumes ?
Ce qu'il faut, c'est que tu diminues les fibres, qui vont se retrouver dans ton estomac et dans tes intestins, parce que ça peut t'amener à des désordres digestifs.
D'accord. On va passer aussi sur la partie mentale que tu as un petit peu abordée lors de l'introduction. Comment, sur des sorties longues, surtout en début de saison, comment tu arrives à maintenir ta motivation sur ces sorties-là ?
Le mental, c'est ce qui fait un petit peu ma force, parce que moi, c'est vraiment en 2023 que j'ai commencé à m'entraîner vraiment à courir. On peut dire que les autres années, je faisais peut-être 300 à 500 km de course dans l'année. 2023, j'ai fait 1600 km de course dans l'année, je pense. Fait que ça fait quand même 9 ans que je développe mon mental. Pour moi, c'est le fameux adage, c'est pas la motivation qui compte, c'est la détermination. Ça veut dire que si j'ai décidé que dans la semaine, j'allais sortir courir lundi, mercredi, vendredi, mais je sors courir lundi, mercredi, vendredi, qu'il pleuve, qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop froid. Bon, il y a des limites quand même au Québec. On va dire que quand il fait moins 20, moins 25, j'ai un peu moins tendance à sortir. Mais c'est ça, c'est vraiment... J'ai décidé que demain matin, je me levais à 5 heures du matin pour aller courir. Mon bébé a été malade, elle a fait de la fièvre ou je sais pas quoi. J'ai passé une mauvaise nuit, j'ai dormi que 3 heures. Ben, je vais aller courir, je me lève et j'y vais. Il y a pas de question à se poser. Et ça, c'est une... Il y avait un livre qui était sorti sur ça, qu'on m'avait offert, qui s'appelait la dualité cartésienne. C'est une façon de dissocier un petit peu le cerveau et le corps, et de pouvoir discuter avec son propre corps, qui fait que tu peux te motiver beaucoup plus facilement à faire les choses.
Ah, je connais pas ce livre, mais en tout cas, ce que tu dis, moi, ça me parle. C'est vrai que j'ai ce sentiment-là parfois de... Quand on se convainc qu'on va faire quelque chose, c'est des fois, c'est comme s'il y avait qu'un plan A, et en fait, on ne laisse pas la place au plan B. C'est tout de suite plus simple.
Oui, c'est ça. Puis, on peut s'adapter. Ça veut dire que le plan A, c'est « je vais m'entraîner ce jour-là à telle heure ». Ça, on n'y déroge pas, il faut y aller. Par contre, l'adaptation, elle peut venir dans le type d'entraînement. Est-ce que tu te sens fatigué ? Donc, c'est peut-être, tu ne vas peut-être pas aller faire un entraînement sprint quand tu es fatigué. C'est des choses comme ça. Mais par contre, tu t'entraînes à ce moment-là, parce que c'est à force de tous ces matins réussis, quand tu vas te lever, que tu vas aller t'entraîner alors que tu n'avais pas envie, tu vas aiguiser ton mental de plus en plus, et ça va devenir de plus en plus facile d'y aller.
Et est-ce que toi, tu as des petits tips à donner en termes de mental, de motivation, que toi, tu utilises ?
Ce que j'ai, par exemple, en course, que j'ai appris sur... c'était sur Facebook, je crois, c'était super intéressant, sur un groupe. Dessine-toi un smiley au creux de la main. Avec un feutre. Moi, je le fais tout le temps pour mes grandes courses, parce que en fait, le sourire a un énorme potentiel anti-douleur, et au niveau pour booster le mental aussi. Le problème, c'est que dans une course, surtout quand on est dans le mal, on oublie de sourire, on oublie d'être content d'être ici, et c'est normal, c'est un peu comme une spirale infernale. Mais de voir ce smiley, parce que nos mains, on les voit en course, surtout quand on a des bâtons en ultra et tout ça, et ben de voir ce smiley, ça permet de se dire, hey, au fait, je vais sourire. Et si on sourit pendant 10 secondes, un vrai sourire pendant 10 secondes, on va le sentir dans notre corps, qu'il va y avoir comme un petit changement, un petit peu comme si tu venais de prendre un doliprane en intraveineuse ou quelque chose comme ça. Ça a vraiment des vertus extrêmement fortes. Et l'autre chose que je pourrais dire, c'est que moi, j'ai tendance à me couper de toute émotion en début de course. ou quand ça va mal aussi. Donc, je switch vraiment, puis on peut le voir sur mon visage. D'ailleurs, lors des départs des courses, je fais en sorte de me couper de tout ce qu'il peut y avoir autour. Et je commence ça même 2 jours avant. Et je me souviens parce que la sœur de ma blonde avait été surprise une fois parce qu'elle m'avait vu leur dire au revoir parce que je partais les 3 jours pour aller faire le 125 km, je pense, ou le 80 km. Et en fait, elle lisait aucune émotion sur mon visage quand je suis parti, quand je leur ai dit au revoir à ma famille. Et c'est parce que j'étais déjà dans ma bulle, j'étais déjà concentré sur la course et j'étais déjà là-dedans, quoi.
Ok, en tout cas merci pour le petit conseil du sourire dans la main. Ça, au moins c'est assez facile à réaliser et c'est à essayer pour voir ce que ça fait.
Et oui, et puis tu sais, des fois on se dit, ah, ça marchera pas, c'est pas intéressant, etc. Mais si, parce que c'est d'utiliser les mécanismes logiques de notre corps et de notre cerveau, mais les utiliser à notre escient, quoi, pour vraiment être meilleur et pouvoir continuer d'aller plus loin.
C'est vrai. En plus, je te vois bien sur la course en train de saluer tes concurrents avec ta main et ton petit sourire dessus
Ouais,
pour transmettre la joie et
effectivement.
la bonne humeur.
C'est vrai, c'est vrai. Puis ça rejoint un petit peu mon côté naturel que moi je suis zéro compétitif envers les autres. Ça ne m'intéresse absolument pas de doubler quelqu'un. C'est pour moi ça. Oui, des fois je m'amuse, tiens, je me donne l'objectif de doubler telle personne, mais honnêtement, moi je suis compétiteur envers moi-même puis pas envers les autres. Si je peux aider quelqu'un, je vais le faire sans problème.
On va parler d'un sujet qui est récurrent sur ce podcast, surtout en partie 1 des épisodes. C'est l'équilibre entre la pratique sportive et la vie personnelle et professionnelle. Toi, comment tu arrives à concilier donc ta vie pro et perso avec ta pratique du sport qui, ça, on n'a pas parlé d'ailleurs, tu nous dis un petit peu en termes de volume horaire ce que ça représente. Mais c'est que pour préparer des compétitions de longue distance, ça a un certain volume horaire et des fois, ça entraîne quand même certaines contraintes. Et toi, comment tu fais pour concilier tout ça?
Faut savoir déjà que je suis un papa heureux de 3 enfants, donc de 7 ans, 4 ans et 1 an et demi. Donc ça représente quand même une certaine charge de travail. Une semaine typique au Québec, c'est 40 heures de travail. Et à côté de ça, en étant expatrié, on n'a pas, par exemple, les grands-parents à qui confier les enfants le soir ou un week-end, etc. Donc, en fait, mon équilibre, je l'ai eu déjà parce que j'ai la chance, avec mon travail, de pouvoir aménager mes horaires. Donc, on va dire, je me lève à 5 heures tous les matins. Je travaille de 5 heures à 6 heures et demie en télétravail. 6 heures et demie, j'arrête. Je vais lever mes 3 enfants pour les préparer, pour aller à l'école, à la garderie, etc. Ensuite de ça, j'arrive au travail à 8h, 8h10. Et cela me permet le lundi et le vendredi de pouvoir partir de 10h à 13h pour aller m'entraîner. Fait que ça, c'est mes 2 premiers entraînements de la semaine qui me sont permis justement parce que je peux adapter mes horaires au travail. Ensuite, moi, comme je suis quelqu'un de très famille, je me permets une soirée dans la semaine où je ne suis pas présent pour ma famille. Donc, c'est le mercredi. Et en général, je rentre à temps pour lire l'histoire des enfants avant qu'ils se couchent. Et ensuite de ça, je me rajoute une séance, soit le samedi matin, soit le dimanche matin, donc à 5 heures du matin. Donc, ça me fait maximum 4 séances dans la semaine.
Et en volume horaire, ça représente quoi?
Ça représente entre 4 heures et 9 heures par semaine. Ce qui n'est pas non plus énorme. Je connais des gens qui s'entraînent pour des demi-marathons qui font beaucoup plus de volume que ça. Moi, je ne peux pas me le permettre. Et de toute façon, ça me manquerait de pas passer du temps avec ma famille. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je pense beaucoup à quel type de sortie je vais faire, à quel endroit. Et c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup le mental. C'est parce que le mental, tu peux le travailler à n'importe quel moment. Tu es dans ta voiture en train d'aller au travail. Bah, tu vas te mettre dans ta petite bulle, dans ta tête, tout en faisant attention de ne pas faire des accidents. Mais tu peux penser à ta course, tu peux penser au ravito, comment tu vas organiser tes ravitaillements. Parce que ça aussi, les ravitaillements sur un ultra, c'est quelque chose qui est délaissé. Par exemple, si tu as une équipe de soutien qui t'attend, ben donne-leur un plan, réfléchis au plan, aux questions qu'ils vont te poser, dans quel ordre, etc. Il ne faut pas croire que quand tu vas arriver au 100e kilomètre, tu vas être super frais pour réfléchir à tout ce que tu dois réfléchir à la place de ton équipe.
Tu as parlé du coup de ta femme et tes trois enfants. Quel est le regard qu'ils ont sur ta pratique ?
Mes trois enfants, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Ils savent que papa fait des grandes courses et puis ils voient des vidéos, etc. En général, ils ne viennent pas sur les courses parce que comme c'est assez loin et que c'est des courses qui durent longtemps et que j'ai quand même un bébé d'un an et demi, je veux pas leur faire subir ça. Et comme j'aime bien me couper un petit peu des émotions, tu sais, je voudrais pas les croiser à un ravitaillement ou quoi parce que ça risquerait peut-être de me faire déconnecter dans ma concentration. Néanmoins, je leur parle de mes courses, ils posent des questions parce qu'ils disent pour le 125, ils ont posé les questions à ma blonde, ah bah papa il est parti, oui il est parti, ok, quand on mangeait ce midi, oui, quand ils se sont couchés, est-ce que papa il court encore, oui papa il court encore. Le lendemain matin, quand il se réveille et papa, il en est où ? Bah, il court encore, tu sais, il a couru toute la nuit. donc il se rend compte avec ça. Puis ma blonde, elle trouvait ça sympa les premières années. Tu sais, je faisais des petits défis, c'était intéressant. Elle me supporte quand même pas mal là-dedans. Elle trouve par contre que là, c'est quand même des gros défis. Et je pense qu'elle est partagée entre c'est génial de faire ces défis-là et quand est-ce qu'il va s'arrêter ce fou de trouver des idées à la con toujours plus grandes.
Le problème, c'est qu'il y a au-dessus des 100 miles, donc c'est ça le problème.
Ah oui, mais ça par contre, puis je pense qu'elle écoutera le podcast, ça par contre, je lui ai promis, je ne dépasserai pas les 100 miles. Donc c'est pour ça que mon plan pour les trois prochaines années est fait, puis je lui ai dit j'atteins mes trois objectifs, puis après ça je retourne à des courses plus simples.
En parlant d'objectifs, du coup, quel est ton objectif sur cette course?
Le premier objectif, effectivement, c'est d'arriver au bout. Comme je disais, l'année dernière, il y a eu 50% de personnes qui ont pris le départ, qui ont terminé. Donc c'est pas des courses à prendre à la légère, donc déjà finir ce genre de course est déjà un exploit. Ensuite de ça, la barrière horaire finale est à 35 heures je crois, mais moi j'ai quand même dans la tête de faire l'ultra trail du Mont Blanc après, le fameux UTMB, et la Diagonale des Fous, j'ai ça en tête, donc je me dis cette course là, il faudrait que je la finisse entre la 29e heure et la 30e heure, ce qui me permettrait d'avoir quand même un rythme pas si pire que ça pour pouvoir prétendre aller à l'UTMB après.
Un bel objectif en tout cas. Et quelles sont tes plus grandes attentes ou appréhensions à l'approche de cette course ?
Les appréhensions, c'est la température. C'est est-ce qu'il va y avoir des fortes chaleurs ? Est-ce que au contraire il va faire très froid ou alors il va se mettre à pleuvoir, etc. Moi je me refroidis très vite, donc ça peut jouer. Si c'est de la pluie et qu'il fait une température correcte, je veux dire, j'ai mon mental suffisamment affûté pour ça, je peux courir sous la pluie pendant 10h, 15h, 20h, ça me dérange pas, mais le froid ça peut jouer quand même. Mes problèmes intestinaux qui peuvent amener à une déshydratation, qui peuvent amener à des choses comme ça. Moi, ma plus grande peur sur une course, c'est les barrières horaires. C'est quelque chose qui m'inquiète. J'ai pas envie de me faire sortir parce que je suis pas arrivé à temps à une barrière horaire. Donc, j'aime bien garder un petit peu de marge, un petit peu de loose, comme on dit au Québec, par rapport aux barrières horaires.
Ok, bah, j'espère que en tout cas ça passera sous les barrières horaires et que tu atteindras ton objectif que tu t'es fixé. Avant de terminer ce podcast par le mot de la fin, qui sera l'occasion pour toi de parler du sujet que tu veux pendant le temps que tu souhaites, je voulais te remercier pour être venu sur le podcast, présenter ce superbe projet qui, je pense, va résonner dans pas mal. J'ai pas mal d'auditeurs parce que ce soit pour un premier ultra, donc que ce soit un 100 miles, 100 km, 80 km ou même des courses en plus petites en distance. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui cette année et les années suivantes vont peut-être tenter de réaliser en tout cas l'objectif le plus long qu'ils ont jamais eu fait, que ce soit en termes de temps ou de distance. Donc je pense que ça va résonner chez pas mal de personnes. Donc merci en tout cas à toi d'être venu, d'avoir accepté l'invitation pour passer sur ce podcast-là.
C'est très gentil à toi, ça me fait plaisir. Puis moi, j'ai vraiment accroché sur le principe de ton podcast, le fait d'avoir une rencontre avant course et une rencontre après course. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait à longueur de temps quand on se fait des défis comme ça. On essaye de s'imaginer comment va se passer la course. On passe énormément de temps à y réfléchir. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui s'est passé pendant la course, fait que moi j'ai été complètement conquis par ça. Puis si tu veux que j'enchaîne avec le mot de la fin, moi je te dirais que bah, je l'ai dit, je suis pas un enfant, j'étais pas un enfant sportif, et je pense que c'est important de partager des histoires peut-être un peu comme la mienne. Parce que on voit beaucoup d'histoires de gens qui ont été sportifs dès le plus jeune âge, qui ont couru dès leurs 5-6 ans, qui venaient d'une famille de sportifs, etc. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas grandi avec ça et qui des fois hésitent un petit peu à s'y mettre ou se disent c'est pas pour moi parce qu'ils voient des gens qui ont déjà un énorme niveau et puis ils se disent bah moi j'arriverai jamais, je vois des gens qui courent à 12 km heure alors que moi à côté bah j'ai du mal à faire 8 km heure et qui peuvent baisser les bras et il faut pas. Il faut pas parce que le sport ça commence à n'importe quel âge. Moi j'ai commencé à courir un petit peu en trail à 27 ans, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement à 35 ans en course à pied. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, travaillez tous les aspects que peut avoir votre corps et votre mental, et puis mettez-vous des défis et ça va fonctionner, ça va bien marcher. Ah, puis j'en profite pour parler de la marque dont je suis ambassadeur, qui est la marque Five Hands. Qui est une marque éco-responsable, des vêtements qui sont super agréables et qui sont faits pour aller jouer dehors, pour aller s'amuser, pour sortir. Donc ça a été un vrai coup de cœur, cette marque. Et si jamais vous voulez suivre ma préparation et ma course, mon fameux 100 miles, et qui sait les prochains défis des prochaines années. Actuellement, bah, c'est sur Instagram. Mon pseudo pour l'instant, c'est My First 125 km. Mais je vais transformer ça en Anto Run and Trail parce que bon, mon premier 125 km a été fait en 2023, donc il était temps de changer. Donc à très bientôt, puis d'avoir le plaisir de discuter avec vous et d'échanger.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.